Et sur France Inter, il est 19h. Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Un échange et sans doute une explication entre le ministre de l'Intérieur et le président de la Conférence des évêques de France. Le secret de la confession est plus fort que les lois de la République, a-t-il dit. Propos polémique qu'il tempère. Ce soir, on verra ce que dit le droit. Un an après l'assassinat de Samuel Paty, un hommage vendredi prochain dans les écoles. Minute de silence, temps d'échange. Chaque établissement sera libre de l'organiser comme il l'entend. Dans l'actualité, encore le procès des attentats du 13 novembre. Et des victimes au visage déformé par les balles aujourd'hui à la barre. Le Nobel de littérature à un Tanzanien, Abdulrazak Gourna. Et puis l'hommage de Marseille à Bernard Tapie. Quelques milliers de supporters en bleu et blanc recueillis ensemble en ce moment au stade Vélodrome. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, pas de téléphone sonne, c'est la suite du 18-20 spécial consacré à la 28e édition du prix Bayeux, Calvados Normandie, des correspondants de guerre. Bravo Hélène. Deuxième heure, vous ferez connaissance avec de jeunes activistes libanais très attachants. Nous serons à Raqqa, qui a beaucoup de peine à se relever de la guerre et de la présence de Daesh. Et puis je vous promets une formidable histoire des correspondants de guerre qui commence à la guerre de Crimée, figurez-vous, pour arriver jusqu'à nous. Allez, à tout de suite.
France Inter. Le secret de la confession est plus fort que les lois de la République. Les mots ne passent pas, ceux du président de la Conférence des évêques de France au lendemain du séisme de la commission Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Le ministre de l'Intérieur et des Cultes demande à Éric Moulin-Beaufort de venir s'expliquer.
En effet, un entretien en tête-à-tête pour éviter le deux poids, deux mesures, alors que le ministre de l'Intérieur avait prononcé cette phrase en février dernier à notre micro. Nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Il visait alors les fédérations musulmanes qui ont refusé de signer la charte des principes pour l'islam de France. Gérald Darmanin ne pouvait donc pas laisser passer une telle déclaration. C'est officiellement Emmanuel Macron qui lui a demandé cette explication. De texte, le porte-parole Gabriel Attal a rappelé tout à l'heure la ligne du gouvernement.
La réaction à ces propos, elle est très claire. Il n'y a rien de plus fort que les lois de la République dans notre pays. Ça tient en une phrase et c'est très clair.
Pour le président de la Conférence des évêques de France, c'est aussi très clair. Il l'écrit ce soir dans un communiqué. Le secret de la confession a toujours été respecté par la République française. Comprenez, il n'est pas question que ça change. Dans l'épiscopat, certains regrettent cette attitude assez raide et surtout, je cite, cette formule malheureuse d'hier. Avec ce face-à-face, le gouvernement compte accentuer la pression pour que les recommandations de la commission Sauvé soient vite appliquées par l'Église. Une commission d'ailleurs qui ne demande pas la levée générale de ce secret, mais sa levée systématique en cas de dénonciation de violences sexuelles sur mineurs ou personnes vulnérables.
Voilà la commission qui met en avant la nécessaire protection de la vie et de la personne, mais le débat existe bel et bien. Cédric Burguin est prêtre, spécialiste du droit canonique à l'Institut catholique de France. Voici ce qu'il dit à Béatrice Duguay.
Le secret de la confession, aujourd'hui, il est encadré par les lois de la République qui le reconnaissent comme nécessaire. Il y a certes un principe dans le droit français d'une obligation de dénonciation de certains crimes, mais à ce principe général dans le code pénal, il y a quelques exceptions, et ces exceptions concernent justement certaines professions et leurs secrets professionnels dont les prêtres font partie. En fait, ce secret n'est pas une opposition à la justice, mais bien une étape qui permet la justice. La confession est toujours un acte qui, à côté de la hiérarchie, permet l'accompagnement éventuellement d'un délinquant pour l'encourager et promouvoir la vérité et la justice. Et puis, par rapport à une victime, ça peut être un premier lieu de parole quand cette parole est beaucoup trop douloureuse et qu'elle a du mal à émerger.
Alors, je me tourne vers vous, Jean-Philippe Degnaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service police-justice, donc vous allez nous aider. Que dit précisément le droit français? Ne dit-il pas que les atteintes sexuelles sur mineurs, sur personnes vulnérables doivent être signalées, sortent en quelque sorte de ce secret de la confession?
Alors, pas tout à fait. En fait, la jurisprudence est constante depuis le 19e siècle sur le périmètre de ce ce secret de la confession, qui est même plus largement un secret ecclésiastique, c'est-à-dire un secret professionnel, semblable au secret médical, au secret des avocats. Il est ouvert à toutes les religions et il couvre des révélations qui seraient faites même en dehors du cadre strict du confessionnal. En fait, il place l'homme d'église face à ses responsabilités morales. Si il trahit la personne qui s'est confiée à lui, il ne pourra pas être poursuivi pour avoir violé son secret, mais surtout, s'il se tait, il ne pourra pas davantage être poursuivi pour n'avoir rien dit à la justice. C'est ce qu'on appelle là l'option de conscience de l'ecclésiastique. Il a le choix de dénoncer ou pas, même s'il s'agit d'atteinte sur un mineur de 15 ans. Le secret ecclésiastique est donc total et il protège la société, estiment les juristes, parce qu'il crée devant le prêtre, le médecin ou l'avocat un espace de libération de la parole qui n'existerait plus du tout si celui qui se confie n'avait plus la certitude qu'il ne serait pas forcément dénoncé.
Jean-Philippe Degnaud, merci pour l'explication. Le président de la Conférence des évêques de France sera donc reçu mardi prochain par le ministre de l'Intérieur.
C'est donc un romancier de l'exil, du déracinement, des douleurs du colonialisme qui reçoit le Nobel de littérature.
Abdul Razak Gourna, c'est son nom, un Tanzanien natif de Zanzibar, auteur d'une dizaine de romans. On le connaît peu, finalement. Ilan Amor Youssef, il a donc été pour le moins surpris.
Abdul Razak Gourna a d'abord cru à un canular, mais c'est bien lui que l'Académie Nobel a distingué pour son travail, je cite, « sur le destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents ». Beaucoup de ces gens qui viennent par nécessité et aussi, franchement, parce qu'ils ont quelque chose à donner. Ils ne viennent pas les mains vides. Première déclaration d'Abdul Razak Gourna au site de la Fondation Nobel. Ses livres sont peu traduits en français. On peut citer « Paradis »,« Près de la mer »,« Adieu Zanzibar », quasi introuvable aujourd'hui. Les éditions Galaad, qui l'ont publié il y a quelques années, ont fait faillite. Emmanuelle Collas, son éditrice française à l'époque, est heureuse pour Abdul Razak Gourna, mais elle se désole d'avoir eu raison trop tôt.
J'ai découvert cet auteur il y a maintenant 15 ans. Il aborde des sujets qui sont les nôtres dans le monde contemporain, que ce soit l'apprentissage de la perte, la quête de l'identité en terre d'exil. Je suis toujours surprise du temps de retard qu'a souvent le monde à reconnaître les auteurs importants.
Avec le prix Nobel, il devrait trouver un public.
Ilan Amor Youssef, l'heure n'est pas à l'allègement pour le pass sanitaire, pas avant le 15 novembre en tout cas. Le porte-parole du gouvernement l'a confirmé tout à l'heure. Il note quelques départements où l'épidémie ne baisse plus, dans les Pays de la Loire notamment, tout en restant à des niveaux très bas. Et puis les tests deviennent payants à partir du 15 octobre, la semaine prochaine. 44 € pour un test PCR, 25 pour un test antigénique, sauf pour les mineurs ou si vous avez une ordonnance. Les anti-vaccins, très virulents en ce moment en Guadeloupe, où le taux de vaccination tourne autour de 30% seulement. La directrice de l'agence de santé dénonce même ce soir des actes de sabotage dans plusieurs établissements de santé. Valérie Denux avec Hélène Chevalier.
On a des actes du type des blocages de pôles logistiques du CHU qui font qu'il y a des retards dans les livraisons de repas. Alors quand quelqu'un est diabétique, vous imaginez bien les problématiques que ça peut poser. Des blocages sur la blanchisserie, donc c'est toujours très compliqué d'obtenir le linge. Ils ont mis de l'huile de vidange dans la DRH du CHU. Ils mettent de la colle dans les serrures. Ils ont bloqué l'unité médico-judiciaire qui accueille les femmes battues ou les enfants en grande difficulté. Ils ont bloqué le rideau du bureau des entrées, ce qui fait que les patients ont des difficultés à pouvoir venir faire leur consultation. Il y a eu une agression d'un interne au CHU qui a été filmée. Enfin, c'est dramatique, ils sont très agressifs parce qu'ils veulent utiliser, je dirais, le sujet de l'obligation vaccinale pour en faire une contestation d'un autre niveau, dont je ne saurais pas expliquer les détails parce qu'évidemment, ça va même au-delà du champ de la santé.
La directrice de l'agence de santé de Guadeloupe, Valérie Denux. Un an après l'assassinat de Samuel Paty, les écoles, les collèges et lycées pourront organiser un hommage dans les établissements scolaires vendredi dans 8 jours. Un temps de recueillement, une heure de cours, un moment d'échange, propose le ministère de l'Éducation nationale. Il laisse les équipes enseignantes décider du contenu, notamment en fonction de l'âge des élèves. Emmanuel Macron recevra les parents du professeur d'histoire-géographie le lendemain, le 16 octobre. 6 ans après, encore énormément de détresse dans les récits des victimes du procès des attentats du 13 novembre. Les victimes du Bataclan témoignent depuis hier. Certaines ont été visées au visage délibérément. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Ces rescapés, Charlotte, blessée à jamais, étaient à la barre aujourd'hui de la cour d'assises spéciale.
Pierre Sylvain a un souvenir très précis du positionnement des terroristes, des tirs en rafale, puis au coup par coup, de manière méthodique, explique-t-il. Celui qui nous a tiré dessus a tiré deux fois, chaque fois en visant notre tête. Pierre Sylvain prend une balle en travers de la figure. Sa compagne Hélène est touchée, elle aussi. Elle n'avait plus de nez, son œil droit avait explosé. Il restait un trou. Pour Gaëlle, c'est en tentant d'écarter le pied de quelqu'un tombé sur elle que ma joue s'est complètement enfoncée à l'intérieur de ma bouche. J'avalais mes dents, ça me faisait tousser, mais je ne voulais surtout pas faire de bruit. Pour ces gueules cassées, comme le dit un chirurgien à Gaël, retrouver un visage va prendre des années. J'ai été opérée pour la 40e fois en juillet dernier, raconte-t-elle à la barre. Hélène subira 14 interventions, dont la dernière, particulièrement douloureuse, a nécessité 2 mois de convalescence. Mais aujourd'hui, raconte son compagnon, elle a retrouvé un visage, pas son visage d'origine, mais un visage qu'elle peut montrer. Gaëlle, elle, aimerait pouvoir embrasser sans craindre de faire peur. Elle a aussi d'autres rêves simples, confie-t-elle, croquer dans un grand burger, une pomme ou boire mon café sans qu'il dégouline à côté.
Charlotte Piret en direct du Parler de Justice sur l'île de la Cité à Paris avec Lucien Lefebvre, compte rendu d'audience à retrouver également sur franceinter.fr.
Cournon d'Auvergne, près de Clermont-Ferrand, c'est l'endroit où il faut être vu cette semaine si on est candidat à la présidentielle.
Bah oui, c'est le sommet de l'élevage, premier salon européen pour les professionnels, passage obligé pour toute femme ou tout homme politique en campagne, au même titre que le salon de l'agriculture. Marine Le Pen y était donc aujourd'hui, après Xavier Bertrand et Fabien Roussel, avant Michel Barnier et Valérie Pécresse, la candidate à l'élection présidentielle du Rassemblement National, pressée de questions sur celui qui ne l'est pas encore candidat officiellement, Éric Zemmour. Elle lui demande cette fois de clarifier ses intentions.
On ne peut pas débattre avec quelqu'un qui n'est pas encore candidat. Moi, je viens dire à Éric, écoute, Éric, maintenant, il faut que tu sois candidat. C'est une question aussi un peu de loyauté vis-à-vis des Français, un peu d'honnêteté politique. Il faut que chacun annonce sa candidature. Et puis, quand tout le monde aura annoncé sa candidature, eh bien, des échanges pourront avoir lieu. Voilà, mais pour l'instant, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de proposition précise de la part de la part d'Éric. J'ai pas d'inquiétude. C'est peut-être parce que j'ai de l'expérience.
La candidate du RN avec Élodie Forêt qui cherche donc la parade alors que son père Jean-Marie Le Pen a dit qu'il soutiendrait Éric Zemmour s'il était mieux placé que sa fille. Le secteur de l'automobile est bien en panne, sans doute le seul secteur où la consommation n'a pas redémarré depuis 18 mois, déplore ce soir le président de la plateforme automobile Luc Châtel, au point même que les organisateurs du salon de l'automobile de Genève ont décidé de reporter l'événement à l'année prochaine. On s'en doutait, le débat a été électrique cet après-midi à l'Assemblée nationale sur le devenir de l'allocation adulte handicapé. Faut-il la verser en fonction des revenus du conjoint ou non ? Le groupe Les Républicains, la France Insoumise, réclamait que cette allocation soit versée à titre individuel. La majorité a voté contre. Le député LR Aurélien Pradier ne comprend pas.
À l'évidence, nous avons une divergence de fond. Et je ne comprends pas comment vous pouvez rester d'une froideur aussi technique face à un sujet aussi essentiel. Comment pouvez-vous encore vous obstiner sur ce sujet ? Toutes les oppositions, toutes les associations, les 24 associations de défense des personnes en situation de handicap, les 24 associations, unanimement, ont signé un appel il y a quelques jours, le 5 octobre, pour conjurer ce gouvernement à déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. Qu'est-ce qui peut vous pousser encore à rester aussi buté et avoir une réponse d'un monstre aussi froid face à un sujet éminemment politique.
Réplique de Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées.
Moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait depuis si longtemps ? Pourquoi brusquement changer de pied ? Excusez-moi. Pourquoi changer de pied ? Je vais vous le répondre, comme l'a dit votre président, pour avoir un volet social dans notre projet politique. Eh bien non, l'instrumentalisation du handicap, c'est non, pas les personnes handicapées. Je suis désolée, elles méritent bien mieux que ça. Et nous l'avons prouvé depuis 2017.
Échange capté à l'Assemblée nationale par Anne Souhaitement. Le gouvernement avait privilégié une formule jugée plus redistributive par lui, un abattement forfaitaire de 5 000 € sur les revenus du conjoint, soit un gain moyen estimé à 110 € mensuels pour 120 000 couples à partir du 1er janvier. Le trafic des trains encore très perturbé dans le sud-ouest. Les TGV ne circulent plus entre Bordeaux et le sud de la Nouvelle-Aquitaine après le déraillement d'un train de marchandises aujourd'hui dans les Landes. Il n'y a pas eu de victimes, mais beaucoup de perturbations donc. Paul Ferrier est à Dax.
Pendant qu'à la Luc, techniciens SNCF et pompiers s'affairaient autour du train de marchandises qui avait déraillé et que le maire de la commune, Christophe Martinez, constatait les dégâts.
Il y a 2-3 wagons qui ont déraillé, les trains ne sont pas couchés. Les essieux sont juste sur le côté de la voie, mais rien de grave, il n'y a pas de blessés. Il va y avoir juste un impact sur les circulations et la voie ferrée.
Et effectivement, à quelques kilomètres de là, à la gare de Dax.
Ben moi, je vais à Paris. Peut-être que j'y arriverai avant demain matin, on ne sait pas. Sinon, je vais dormir à Dax. Mais bon, je n'ai pas envie de venir faire une cure non plus. Il faut être zen, parce que sinon, ça ne sert à rien de s'énerver.
J'ai vu qu'il y a des gens qui n'étaient pas zen, hein, qui couraient dans tous les sens.
Hein. Bah ouais, mais ça, il y en a toujours. Hein. Mais bon, ça ne fait pas avancer le schmilblick plus vite non plus. Hein.
Votre prénom ?
Nicole.
Plus aucun train ne circule, c'est la ruée vers les bus. Un jeune homme, en courant avec sa valise pour être sûr d'y avoir une place, percute une femme.
Les gens dans le stress deviennent débiles. Ils sont prêts à écraser les autres pour avoir une place dans un bus, sachant que tôt ou tard, de toute façon, il y aura une solution et qu'il faut juste être patient. Ce qui est inadmissible, ce n'est pas le comportement de la SNCF, c'est le comportement des usagers. Comme il y a des bus, ils commencent à courir comme si leur vie en dépendait. Enfin, c'est ridicule.
C'est dommage. Nous, on est patients.
Vous allez où ?
À Paris.
Bon courage à tous.
Reportage signé France Bleu Gascogne.
Et à 19h15, Hélène, nous partons à Marseille où le stade Vélodrome est entouré d'une foule bleue et blanche.
Les Marseillais viennent dire au revoir à l'ancien président de l'OM, Bernard Tapie, et à son jour de gloire le 26 mai 93, quand le club de la ville devient un champion d'Europe. C'est ce succès qui a créé le lien entre l'homme d'affaires et Marseille. Ceux qui le souhaitent sont donc venus et viennent en ce moment au stade Vélodrome se recueillir devant son cercueil. Cyril Ardo, vous êtes sur place hein, et il y a beaucoup de monde.
Oui, quelques 3500 personnes sont venues dans ce stade Vélodrome assister donc à cet hommage. Ce sont d'abord des photos de Bernard Tapie qui ont été diffusées sur écran géant avant de passer le match OM Milan AC, match du 26 mai 93, vous l'avez dit Hélène, qui a offert la première et seule victoire française en Ligue des Champions. Chaud d'ambiance dans ce stade. Et à la 44e minute. C'est le but de Basile Boli, but de la victoire. Puis le stade se tait et sur la pelouse, le cercueil de Bernard Tapie entre. Alors on aurait dû entendre la musique, l'hymne de l'OM. Des supporters ont levé des banderoles, une banderole « Tout Marseille avec le boss » était déployée. Les supporters levaient des écharpes. Et Bernard Tapie, patron de l'OM, c'est de cet homme-là qu'a voulu venir rendre hommage Denis.
Alors, Denis, qu'on n'entend pas tout à fait encore Cyril Ardo, mais on sent l'ambiance
voilà, avec tout ce qui
dans
nous a
le stade
fait rêver
Vélodrome.
Et gagner comme victoire, on peut être que là pour lui.
On pense voilà. À Marseille 93, évidemment.
C'est ça, bien sûr. À Paris, c'est 91. Et 93, c'était à Munich, et on y était. Enfin, moi, j'y étais. Voilà, plein de souvenirs, plein de. Enfin, dans notre cœur, hein, c'est sûr. Et voilà, bon. C'est tout. Je suis un peu ému, mais bon, voilà.
Voilà, le Bernard Tapie, président de l'OM. D'autres ont voulu également se souvenir du Bernard Tapie, homme politique, amoureux de Marseille. Tous disent avoir énormément pleuré quand ils ont appris la mort du boss. Dimanche, ils parlent de la disparition d'un ami, d'un proche, presque quelqu'un de la famille. Et presque toutes les personnes que j'ai rencontrées ce soir ont l'intention de venir se recueillir très rapidement sur sa tombe ici à Marseille.
Cyril Ardo en direct de Marseille, merci beaucoup à vous Bernard Tapie, l'homme d'affaires érigé en symbole de la réussite sociale avant d'être rattrapé par les affaires, mort dimanche dernier à 78 ans. Ses obsèques auront lieu demain à Marseille, sa ville de cœur, disait-il. Et puis on apprend ce soir la mort d'un autre homme de médias, Étienne Moujotte. Il avait 81 ans. Il avait commencé sa carrière dans la presse écrite à Paris-Normandie avant de travailler à la télévision, à la radio, Europe 1 notamment. Mais c'est vrai qu'on le connaît surtout pour ses fonctions de dirigeant de TF1, numéro 2 qu'il a été pendant 20 ans. Il a façonné la une. Il a été aussi figure de la chaîne au moment de la privatisation. Étienne Moujotte, donc, dont on apprend la disparition ce soir à l'âge de 81 ans.
Merci beaucoup Hélène Philippe pour le journal. Évidemment, à demain, le 18-20 spécial autour du 28e prix Bayeux. Calvados, Normandie, des correspondants de guerre se poursuit avec d'autres rencontres qu'on est heureux de vous faire partager. La météo juste avant. La
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Et Jean-Pierre Hameau, une fin de semaine bien ensoleillée finalement.
C'est vrai Fabienne, le soleil sera l'invité de cette fin de semaine. Après, naturellement, la dissipation des grisailles présentes en fin de nuit, en particulier vers le Limousin, l'Auvergne, le Lyonnais, le sud de l'Alsace, mais aussi près de la Garonne. Il faudra encore composer avec un ciel nuageux près des côtes de la Manche, mais uniquement en matinée. Et puis du côté de la Corse, la journée sera souvent nuageuse avec quelques averses passagères. Mistral et Tramontane vont souffler jusqu'à 50 km/h dans leur domaine. Côté température, les maximales seront plutôt douces, hein. L'après-midi, comprise entre 17 et 25 degrés. On attend 17 à Besançon, 18 à Nancy, 19 dans la capitale comme à Dijon et Biarritz, se compter 20 à Orléans et Toulouse, 21 à La Rochelle et Nîmes, 22 à Bastia, 23 à Nice et puis on ira jusqu'à 25 à Toulon.
Merci beaucoup Jean-Pierre Hameau de Météo France.